On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Pois. Nous n'avons à traiter ici que des petits pois cueillis avant leur maturité, alors qu'ils sont encore tendres et remplis d'une eau sucrée. Les petits pois sont, sans contredit, un de nos meilleurs légumes. Lorsqu'ils sont bien frais, bien tendres et cuits aussitôt écossés, ils forment un entremets toujours parfaitement accueilli. Les pois offrent encore une précieuse ressource lorsqu'ils sont desséchés, mais ils sont plus difficiles à digérer que frais.
On a toujours besoin de petits pois chez soi.
C'était la définition de pois dans le grand dictionnaire d'Alexandre Dumas, lu par une voix de la maison, celle d'Hervé Pochon. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il paraît qu'il vaut mieux l'avoir dans l'assiette que dans la tête, ce petit pois. Petit pois, grandes émotions. C'est la saison de ce caviar vert et on en est très heureux. En ce dimanche printanier, on plante, on écosse et on cuisine les petits pois avec nos deux invités. Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Notre pote du potager incontournable quand on parle légumes dans l'émission On va déguster. Expert, formateur en permaculture, auteur de nombreux livres de référence sur les plantes potagères. Le dernier, c'est « Faites pousser et déguster vos protéines chez Larousse » avec François Couplan quand même.
Oui, d'actualité avec le petit pois.
D'actualité avec le petit pois. On va en parler, Xavier. Laura Portelli, bonjour.
Bonjour.
Cuisinière, on pourrait presque dire aubergiste, néo-aubergiste.
J'aime bien, j'aime beaucoup. Et même cuisinier. Parce que cuisinière, pour moi, c'est un meuble.
Ah, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va vous appeler cuisinier ou aubergiste, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez le garde-manger où vous réinventez un peu la charcuterie traiteur façon cantine de quartier. C'est juste à côté de Papillon, le bistrot gastronomique de votre compagnon, Marie, Christophe Saint-Agne.
Exactement. C'est dans le 17e, métro Wagram. On est dans un quartier très sympa. Moi, j'apporte un peu d'italianité dans la rue.
C'est ça. Et les petits pois, vous aimez ça et vous osez même les cuisiner aussi un peu à l'italienne. On va voir ça.
Exactement.
Très bien. Quels chroniqueurs sont aujourd'hui à mes côtés? Notre coup de lamiste Arnaud Daguin et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour les copains.
Bonjour à toutes et à tous.
Antoine.
Je ne dirais pas mieux.
Arnaud, votre coup de lame aujourd'hui?
Un coup de vis aujourd'hui.
Un coup de vis?
Oui, un coup de vis.
Ah, on va comprendre pourquoi. Antoine Gerbel.
Ali goûté aujourd'hui.
Ali goûté, très bien, ça sent le vin, ça. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Léo Pringer et Nadia Chougui. Les infos, les recettes de notre invité Laura Portelli et le podcast de l'émission sont à votre disposition sur notre site très complet, franceinter.fr, à la page On va déguster. Juste avant, les petits pois, pas qu'oblige, je vous fais goûter un peu de chocolat.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
On est dans la commune de Sainte-Suzanne, dans l'est de la Réunion. Alors, l'est de la Réunion est un climat tout à fait idéal pour le cacaoyer, puisque le cacaoyer a besoin d'une pluviométrie constante toute l'année et aussi de chaleur. Ici, on a tout. Les fèves de cacao vont s'approprier l'environnement. On a fait goûter un chocolatier parisien et il nous a dit il y a une note d'avocat là-dedans. C'est simple, les cacaoyers où était issue la récolte étaient plantés au milieu d'avocatiers. Donc en fait, pour vous dire, il y a un véritable échange d'arômes, et ces arômes extérieurs, on les retrouve en chocolaterie après.
On va déguster à La Réunion, ça me rappelle de bons souvenirs. C'était une émission spéciale qui avait été diffusée le 30 avril 2017 sur cette antenne. Nous étions allés avec Elvira à la rencontre de Simon Vienne, l'un des fondateurs que vous entendiez dans l'extrait, de Cacao Pays, une plantation de cacaoyers conduite, ça va vous plaire Arnaud, en agroforesterie. Ça se passe à Sainte-Suzanne, dans l'est de l'île. Et c'est une plantation qui produit un cacao de qualité exceptionnelle. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas encore de débouché à l'époque avec des chocolats en métropole. Eh bien, les choses ont changé. Le débouché, le voici. Vous l'avez entre les mains, Arnaud.
Le voici, il est très beau.
En ce dimanche de Pâques, un peu de chocolat. C'est un cadeau d'Elvira Masson qui a repéré cette tablette, figurez-vous.
Le bruit du papier d'or.
Un chocolat qui est fait avec ses fèves de cacao. C'est du Criollo blanc. C'est une variété de cacao assez rare, donc cultivée en agroforesterie à La Réunion, dans un endroit de rêve.
Ça démarre fort.
Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun un petit carré en bouche.
L'attaque est énorme.
Il est assez clair de couleur, on croirait presque un chocolat au lait alors qu'il affiche 70% de cacao.
Oui, oui, mais il les affiche et il n'est pas hypocrite, parce qu'ils y sont.
C'est plus alzan que criollo, parce que criollo, c'est la couleur de ces petits chevaux argentins que montrent les gauchos.
Mais ça, c'est criollo blanc, c'est vraiment une variété particulière. Vous en pensez quoi, aromatiquement, gustativement, Antoine Gerben?
Ben, c'est tout ce que j'aime dans le chocolat, c'est rien dans le début de bouche et tout en milieu progressivement. Long, voilà. Et à la fin,
c'est d'une longueur.
Et du grain. Du grain d'abord avant du goût.
Oui, c'est ça qui est intéressant, la texture. Alors ça, j'imagine que c'est le conchage qui doit être poussé jusqu'au point que on garde cette petite rusticité que j'aime beaucoup, moi, dans le chocolat quand il est bon.
C'est très dangereux parce qu'on peut en abuser.
Oui, ça
sent pas le sucre du tout.
Ça sent l'addiction à plein nez.
Vous êtes censé y retrouver des notes assez épicées, peut-être même des notes de noisettes torréfiées avec un peu de biscuit, notes de caramel en fin de bouche également. On n'est pas tellement dans le fruit rouge, l'acidulé. On est plus dans un cacao d'une belle rusticité.
Et ça me plaît. Moi, je préfère personnellement les chocolats de ce type-là plutôt que ceux qui finissent pointu.
C'est ça.
Et là, en fait, c'est un équilibre fantastique jusqu'au bout. Hein. Et c'est très très long.
Vous aimez ou pas, Laura ?
Moi, je trouve très abordable, très compréhensible, très gourmand en fait. Et souvent, les chocolats qui sont très forts en chocolat, les gens en ont très peur parce qu'ils sont un peu amers.
C'est souvent fait moins mal quand même.
Exactement.
Il y a une caste de gens qui aiment bien. Justement, Arnaud parlait de pointu, ce côté acidulé qui termine. Là, c'est doux, mais pas facile.
Cette tablette, 70% de l'île de la Réunion, cacao pays, récolte 2019. Alors, c'est pas un grand nom de la chocolaterie française ou internationale.
Est-ce que vous avez vu écrit en trop petit à mon gré cette mention qui est sous l'étiquette Bean to Bar?
Absolument, vous avez tout dit. C'est signé Encuentro. Alors, Encuentro, c'est un atelier de chocolat spécialisé, comme vous le dites Arnaud, dans le Bean to Bar. Bean to Bar, c'est une expression anglaise qui signifie en fait de la fève à la tablette.
Absolument.
C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez peu, les artisans en France, qui transforment vraiment la fève de cacao et qui vont jusqu'à la tablette. En général, on utilise des chocolats de couverture qu'on achète à des enseignes dont c'est la spécialité, puis ensuite on fait des tablettes avec des assemblages. Là, ils partent vraiment de la matière première, du cacao, de la fève de cacao. Exactement, monocépage, monocru, Encuentro, c'est à Montreuil dans le 93, et ça veut dire, figurez-vous, rencontre en espagnol, la rencontre entre Antoine Machy et Candice Pétour, qui fabriquent dans leur manufacture de la région parisienne des tablettes bio, artisanales, éco-responsables. Et il n'y a dans ces tablettes que du cacao, à 70%, qui est très bien sourcé donc, et du sucre, rien d'autre, aucun émulsifiant, pas de lécithine de soja, pas d'additif, évidemment, et vous avez d'autres tablettes que je vous ai rapportées, qu'on va déguster, Guatemala 70%, République Dominicaine, ils ont même, figurez-vous, une tablette avec du cacao sauvage de Bolivie. Voilà, ça s'appelle Encuentro, c'est un formidable petit atelier de chocolatiers avec des gens qui ont vraiment des valeurs et des convictions, notre couple, qui s'appelle donc Antoine et Candice. Ils vendent en ligne et on vous a indiqué tous les points de vente dans la France sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
Eh bien les petits pois, c'est juste après, en vacances du chanteur Séverin. Ça sent la bossa, vous allez voir, mais aussi le petit pois sur France Inter.
Ton boulot s'en balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit. Sous réserve qu'il y ait du wifi, à nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser. Sous réserve qu'il y ait des vagues, la vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y a des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
Les petits pois déboulent dans le studio dont on va déguster en ce dimanche de Pâques. Commençons par une dégustation visuelle, ou plutôt picturale, un peu les deux, avec un célèbre tableau dont vous avez une reproduction sous vos yeux. C'est le célèbre tableau de Georges de la Tour, un peintre français du XVIIe siècle, connu notamment pour sa maîtrise de la lumière et des clairs obscurs. C'est vous, Xavier Mathias, qui nous avez mis sur la voie de cette toile intitulée « Les mangeurs ». De poids, on peut d'ailleurs la contempler à la Gemälde Galerie, si ma prononciation est exacte, à Berlin. Un tableau à l'atmosphère quand même assez tragique. Hein. On voit une femme à gauche, un homme à droite, tous les deux d'un certain âge, visiblement de conditions très pauvres.
Oui, à mon avis, lui, il n'a pas su remplir sa déclaration en ligne et ça lui pose un problème.
Oui, ils sont debout, habillés quand même de vêtements rapiécés. La femme, mais on la devine, enfin on voit qu'elle est édentée. L'homme a des problèmes à l'œil. Très certainement, il serait à la porte d'un hospice où les deux personnages auraient reçu en fait une aumône.
C'est ça la pitance en fait. Pitance, le mot pitance vient de pisum, le poids. Donc la pitance, c'est ce qu'on distribue à l'Hôtel Dieu en fait, hein, pour nourrir les malheureux, les indigents, etc. Parce que pourquoi ? Parce que le poids, déjà le poids, on peut le conserver. Mm-hmm. Quand il est sec, on peut le conserver longtemps. C'est un apport de protéines, c'est roboratif. Et voilà, vous mangez votre bolet de poids et puis effectivement, ça peut faire suffisamment pour tenir une journée.
Apport de protéines.
Ah oui, oui. Alors, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas équilibrées. Néanmoins, c'est un vrai apport de protéines.
Ouais, et là, ouais. On parle de quel poids. Ils ont une couleur quand même un peu kaki clair, entre guillemets. Pas vraiment le vert tendre qu'on attendrait du petit poids dont on va parler tout au long de cette émission. Il s'agirait de quel poids sur ce tableau ?
De l'équivalent de notre poids cassé, en fait. Hein. Notre poids cassé, en fait, c'est le battage mécanique qui fait que le grain casse en deux. Mais les petits pois, ils sont verts quand ils sont frais. Mais quand ils mûrissent sur la plante, ils sont plus verts. Ils sont, ça peut être variable, mais disons que ça va vraiment du vert très très pâli au beige, etc. Donc là, moi, je sais qu'il y a une polémique pois cassé ou pois chiche.
Sur ce tableau, voilà, oui, il y a des historiens de l'art qui ont parlé de pois chiche, mais visiblement, non, fait, à 80%, il s'agira de pois
sec. Je pense qu'il s'agit de pois sec. Hein. Oui. C'est ce qu'on consommait. Hein. C'était quand même très très logique de consommer les pois secs parce que ça se conserve, tout simplement. On n'a plus du tout, nous, cette contrainte-là, puisque tout voyage.
Mon cher.
Le petit pois contient des protéines hein, quand il est frais, mais néanmoins il y a quand même une transformation, une évolution des sucres qui font qu'on a plus une richesse en protéines qui est plus élevée quand il est sec. Et puis c'est beaucoup plus rationnel de le manger sec que frais, puisque en termes de poids il est plus intéressant, puis de conservation surtout.
Xavier Mathias, vous êtes en train de nous dire que le pois cassé, on l'appelle d'ailleurs pois cassé parce qu'en général dans son paquet c'est deux demi-sphères, c'est comme un petit pois cassé en deux.
C'est ça.
Ce serait... Un petit pois pousser jusqu'à sa maturité.
Oui, exactement. Ce qu'on appelle les pois de casserie, sont des variétés qui sont sélectionnées pour, mais n'importe quel jardinier qui cultive des petits pois peut les laisser arriver à maturité, mais comme les fèves, ou les haricots. Et puis, après, on sait ce que c'est, les pois cassés. Moi, personnellement, je trouve ça très bon. Je trouve un petit peu dommage de manger des petits pois surgelés ou des petits pois apertisés, alors qu'on a les pois cassés. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt.
D'autant que c'est délicieux, ça. C'est prodigieux, les pois cassés. On fait des potages.
Il faut les faire tremper.
Ah voilà.
Et ça prend du temps. Le trempage. Le pois cassé, ça vous évoque quelque chose, Laura Portelli?
Bien sûr, le pois cassé au lard. On imagine bien, d'ailleurs, ces deux, peut-être paysans, ces travailleurs de la terre, vu l'état de leurs mains, manger le plat traditionnel français, qui était le pois cassé, écrasé en purée avec du lard.
Absolument.
Et aussi, notamment, parce que jusqu'à la Renaissance, quand même, on mangeait beaucoup de légumes secs, parce qu'on pouvait les contenir, etc. Ça nous parle moins aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avec l'ère du frigidaire, et voilà, les gens sont habitués à jeter, en fait.
Comment aurait-on eu l'idée, justement, d'attraper ce petit pois de façon très très précoce avant sa maturité, pour le manger finalement frais, comme un légume, sucré, très vert, croquant?
Alors, en fait, le petit pois frais, il apparaît en Angleterre au XIIe siècle, en France au XIIIe, etc. Alors, faut aussi se représenter quand même ce que c'est que passer l'hiver. Les légumes secs, c'est très bien, mais c'est quand même pas très très funky, mais même pour un problème de santé que nous on connaît plus, qui est le scorbut, tout simplement, manger que une abondance de légumes secs, au bout d'un moment, c'est un petit peu difficile quand
Absolument.
Même. Et dans l'écrit de Paris, donc 13e siècle, dans l'écrit de Paris, il y a un écrit pour dire j'ai pois en cosse tout nouveau, pour bien montrer que attention, là, on peut se réveiller, on peut retrouver un petit peu le sourire quand même avec ces petits pois.
Si l'on comprend bien, que l'on résume les choses, le pois dans ce fameux tableau de Georges de la Tour, finalement il est réservé, on va dire, aux pauvres, à la populace. Comment alors ce pois a acquis son statut quasiment aristocratique? Quand est-ce que ça s'est passé? Car aujourd'hui encore, le petit pois est un légume de luxe.
Alors ça, c'est Louis XIV, incontestablement. C'est la mode. Mathias. Oui, la mode arrive avec Louis XIV, qui s'envoie offrir par Odigé, qui lui en ramène d'Italie. Mais vraiment, c'est la folie pour Louis XIV, qui vraiment raffole de ça. Il y a une mode à la cour, et il y a Madame de Maintenon qui écrit « Le chapitre des pois dure toujours, l'impatience d'en manger, le plaisir d'en manger, et la joie d'en manger encore, sont les trois points que nos princes traitent depuis trois jours. »
Vous êtes en train de nous dire que le petit pois se mangeait comme une friandise végétale, on avalait des petits pois comme on mangeait des dragibus.
Alors oui, il y a même le médecin de Louis XIV, qu'on a tous les bulletins de santé de Louis XIV quand même, qui s'affole de voir Louis XIV avoir des indigestions pas possibles de petits pois. C'est une vraie folie.
Mansart en est mort. L'architecte Mansart est mort d'une indigestion de petits pois.
Non, le petit pois serait donc dangereux.
Mansart, c'est aussi le surintendant de Versailles, et donc il a comme gestion le potager du roi. Et donc, en fait, Mansart, c'est lui qui va planter à la demande de Louis XIV beaucoup de légumes. Et cette mode-là, elle va aussi instaurer en Ile-de-France la culture de petits pois, à Clamart notamment, à Nanterre, etc.
Reparlons un tout petit peu botanique. Vous évoquez Pitance, Pisum, Pisum. Pisum sativum, c'est le nom latin du petit pois.
Voilà, c'est ça.
Et le petit pois, dans sa grande famille des légumineuses, par rapport à ses cousins, les pois chiches.
Voilà, qui sont des pisums aussi. Et puis avec aussi, et ça, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut encourager à manger des petits pois ou des pois cassés, donc qui sont la même plante. Rappelez que ce sont des légumineuses qui sont capables de fixer l'azote et que ça demande quand même beaucoup moins d'intrants. C'est ce qu'on appelle des engrais verts aussi. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue agronomique. On a des champs qui sont en meilleur état après une culture de pois qu'avant.
Cultivons des petits pois et des pois.
Oui.
L'azote.
C'est à Henri Leclerc, grand historien et spécialiste des légumes au début du XXe siècle, que vous attribuez, Xavier Mathias, la plus belle description de ce délicieux trésor potager qui est le petit pois. Vous nous aviez confié ce texte, c'est plus de la poésie en fait qu'un texte scientifique. Je vous propose d'en écouter un extrait, lecture Arnaud Daguin.
Il n'est pas donné à tous de trouver un sujet d'émotion dans un spectacle de ce genre. Du moins, la plupart attendent-ils, pour donner libre cours à leur allégresse, que le pistil, mûri par le soleil de l'été, se soit transformé en une gousse élégamment arquée qui, lorsqu'on la presse entre le pouce et l'index, éclate de rire, découvrant, comme une rangée de perles, ses graines arrondies d'un beau vert de jade. On se sent alors tout disposé à admettre avec les botanistes que ce bijou des potagers soit originaire des contrées enchantées de l'Orient, de la Perse et de l'Inde.
Superbe. En voilà une évocation qui met l'eau à la bouche et qui donne envie de déguster des petits pois. Et pourquoi pas, allons-y, pour citer peut-être bien l'une des recettes légumières les plus connues du patrimoine gastronomique français. Une certaine préparation de petits pois.
Petits pois à la française. Mettez 2 litres de pois très fins dans une casserole avec un peu de beurre et de l'eau. Pétrissez avec les mains, jetez l'eau et ajoutez un bouquet de persil, un petit oignon, un cœur de laitue, un peu de sel et une petite cuillerée de sucre en poudre. Couvrez la casserole et faites cuire à petit feu une demi-heure. Puis retirez le bouquet de persil et l'oignon, posez la laitue sur le plat. Liez vos pois avec un bon morceau de beurre fin, manié d'un peu de farine, sautez-les sur le feu jusqu'à ce qu'ils soient bien liés et versez-les en buisson sur la laitue. Évitez la liaison. Les petits pois frais se lient d'eux-mêmes. N'oubliez pas, pour que les pois conservent leur humidité dans la cuisson, de mettre en place du couvercle une assiette creuse avec de l'eau.
La recette des petits pois à la française, telle qu'elle a été rédigée par Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine, telle qu'elle a été lue par Hervé Pochon, notre ami. Recette de petits pois à la française, on entend petits pois, oignons nouveaux, un peu de laitue, du beurre frais pour lier le tout. Il y a un peu un débat en fait dans le milieu gastronomique. Certains chefs rajoutent une petite note de lardon, un bon lard. Alors lardon ou pas lardon dans les petits pois à la française? Est-ce que vous sauriez trancher ce débat, Laura Portelli?
Alors moi j'ai eu vent par des gens qui ont travaillé par exemple avec le chef Jean-François Piège qu'il mettait des lardons dans ses petits pois à la française.
Oui.
Par contre, j'ai regardé dans le livre de les recettes de la mère Brasier.
Là, vous évoquez, la mère Brasier, vous évoquez la mère lyonnaise 2x3 étoiles. Rue Royale à Lyon et au col de la Luère.
Moi, en tant que femme, je peux citer que la mère Brasier.
Mais évidemment.
Et l'escoffier est dedans, bien sûr, il n'y a pas de lardon.
Ah.
Par contre, dans l'escoffier, on parle des petits pois bonne femme.
Oui.
Où là, il y a du lardon et des oignons grelots. Systématiquement, on retrouve la laitue, le bouquet aromatique,
et l'oignon
le
nouveau.
Beurre en très grande quantité et non pas l'oignon nouveau.
Pas l'oignon nouveau, d'accord. Non. Donc surtout la laitue.
Voilà. Et le beurre et encore du beurre.
Bah oui, ça c'est le marqueur gastronomique français, et évidemment, beaucoup de beurre. Et du beurre au début, du beurre avant, du beurre pendant, après.
Exactement.
Du beurre frais, enfin, il y en a
dans
beaucoup.
Dans l'escoffier, il y a 125 grammes de beurre pour 1 litre de petits pois, je cite la recette. Mm-hmm. Et on rajoute encore 2x25 grammes de beurre. Et en même temps, ça doit être succulent. Et puis le beurre devait être magique en plus à l'époque. Il devait être.
Comment on cuirait le petit pois? J'ai visiblement compris qu'il y avait 2 écoles. Le petit pois à l'anglaise, le petit pois à la française. Ça, c'est pour la cuisson de ce légume, qui est une étape assez délicate. À l'anglaise,
c'est un petit pois qui est cuit à l'eau, en fait.
Qui est plongé dans l'eau bouillante.
Et longtemps. Enfin, qui est non pas plongé quelques temps dans l'eau bouillante. C'est comme beaucoup de légumes à l'anglaise, c'est cuit très longtemps.
Alors que le petit pois à la française,
il est saisi dans du beurre, enfin saisi doucement dans du beurre, avec un peu d'eau et réduction.
Donc c'est ce qu'on appelle à l'étuvée.
Exactement.
Arnaud.
Le petit pois à la française n'est pas censé recevoir d'eau. J'étais étonné au début de la recette d'Alexandre Dumas d'entendre l'eau. Et si on l'a réécouté, on entendrait qu'il s'en débarrasse après. C'est-à-dire en fait, il rince ses petits pois, il se débarrasse de l'eau. J'ai bien entendu ça. Et un deuxième truc qui m'a étonné dans cette recette d'Alexandre Dumas, c'est la présence de farine.
D'accord.
Vous avez entendu
cette de farine. Bon, ça, c'était des recettes à l'ancienne, effectivement.
Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on cherche une texture quand même.
Là, il y a une scission. Parce que dans le Larousse et dans l'escoffier, il n'y a pas de farine. Par contre, il y a du beurre et dans l'escoffier, il y a un petit peu d'eau, quand même, avec une réduction. Alors, je ne sais pas.
Ce que j'ai appris petit, c'était que la laitue donnait son nom et le petit pois devait cuire dans la sienne.
Oui, c'est vrai, parce que vous mettez la laitue, vous enlevez le couvercle, vous faites réduire et ensuite vous enlevez la laitue et vous continuez la cuisson.
C'est ça.
Laura Portelli, s'il fallait donner en 2-3 étapes une recette assez simple pour faire des petits pois à la française, sans avoir évidemment 3 tonnes de beurre, ni de farine, etc. Une version un peu modernisée, à l'étuvée, il s'agirait d'écosser évidemment les petits pois,
bien sûr,
de commencer à les faire cuire doucement dans un sautoir ou une poêle.
Après, ça dépend, parce que la mode actuellement, c'est de manger les légumes croquants.
Mm-hmm.
Moi, c'est ce que j'aime. Et les petits pois, j'ai cuirais très peu de temps dans du beurre. Je rajouterais peut-être un peu d'oignons nouveaux. Vous savez, c'est les oignons qui ont des tiges vertes, qui poussent au début du printemps, que je couperais, je hacherais en morceaux. Et puis à la fin, une petite menthe ou une fleur de thym, une petite herbe qui donne un peu de légèreté, mais qui ne soit pas trop violente, parce que le petit pois, c'est très sucré. Et ça demande un peu de respect, en fait.
Quand le petit pois, on l'étuve, on met un petit peu d'eau ou de bouillon, est-ce que l'on cuit à couvert?
Bah oui, mais alors il va devenir un peu verdâtre.
Donc vous voulez dire pas très verre acide.
Moi je mettrais pas beaucoup d'eau, je mettrais peut-être une petite cuillère à café d'eau,
oui.
Juste pour
oui.
lier un peu et que ça donne une espèce de petite, vous savez, de petite pellicule brillante sur le petit pois. Mais je mettrais pas beaucoup d'eau, je couvrirais pas et je ferais 5 minutes comme ça. Après ça dépend parce que vous faites des tagines, vous mettez des petits pois dedans, c'est sympa. Et faut par contre les mettre à la fin de la cuisson des tagines.
Et ma belle-mère mettait toujours un petit carré de sucre.
Oui,
non,
oui,
mais attendez, c'est... il est assez dans sucré comme ça, recettes... le petit pois.
Non, non, dans toutes les recettes, Escoffier, Larousse, etc., il y a plus de sucre que de sel. Il y a 25 grammes de sucre pour 10 grammes
on
de sel.
On va à l'outrance.
On peut aussi dire à nos auditeurs qu'on peut largement s'en passer, dans la mesure où le petit pois, son intérêt gustatif, c'est d'être justement naturellement sucré. Laura Portelli, vous êtes d'origine par votre famille toscane quand même.
Exactement.
Et vous avez osé me dire en préparant cette émission que votre matière grasse préférée pour cuire le petit pois n'est pas le beurre, mais...
L'huile d'olive.
Non.
Et si. En plus, j'en choisis une bonne. Je prends celle de Cédric Casanova, La tête dans les olives, qui est bio, une sorte d'olive, un producteur interroir.
Ça vient de Sicile.
Exactement. Et donc, non, moi, je le saisis très peu. Je le blanchis pas parce que j'ai pas envie que son goût aille dans l'eau.
Mm-hmm.
Et je le mets dans l'olive fraîche, juste écossée.
Mm-hmm.
Voilà.
Et...
un petit peu de sel.
Et vous arrivez à faire une burrata à la clamart, par exemple. Revenons juste sur la définition de à la clamart, car le petit pois était une passion parisienne. Il y avait des bassins de production tout autour de Paris qui alimentaient même, figurez-vous, rue des Halles, un marché spécialisé dans les petits pois. On y venait pendant les quelques semaines de la saison des petits pois, se ruer sur les petits pois de Rueil, de Clamart, etc. Et à la clamart, c'est une expression du patrimoine gastronomique français qui a un peu disparu, mais qui désigne en fait une viande ou un poisson accompagné d'une garniture de petits pois. Donc si on dit pour Pâques un gigot à la clamart, par exemple, c'est un agneau accompagné de petits pois.
Et là, de lait.
Un agneau de lait, absolument. Et là, vous nous proposez une recette italienne à la clamart.
Bah oui, j'ai une bonne burrata qui vient de Campanie.
Définition de la burrata, Laura, s'il vous plaît.
C'est un fromage frais à base de lait de bufflone.
Ou lait de vache, ça vient des Pouilles.
Exactement. Qui est très très frais, très coulant, plus que la mozzarella.
Mm-hmm.
Et que l'on met parfois avec de la tomate ou même des pizzas.
Et on a le droit de goûter ou pas?
Ah bah bien sûr, attendez, je vous ai préparé ça. Je vous ai ramené donc des petits pois que j'ai fait saisir dans de l'huile d'olive. Là, je rajoute de la menthe, un petit peu d'oignon nouveau, de la graine de coriandre, de l'huile d'olive. Et je vous mets la burrata dessus.
Oh là là, c'est beau. On n'a presque pas envie d'y toucher, on a envie de prendre une photo simplement. Ce sont des petits pois qui ont juste comme ça...
Saisis
à l'huile d'olive. Une recette absolument superbe.
Goûtons.
Voilà. Et là, le petit pois croque sous la dent.
Oui.
C'est épatant.
C'est un choix. Après, moi, je comprends que traditionnellement, on le fasse un peu plus cuit.
C'est un régal.
Ils mangent tous, ces garçons-là. Bon, bah, bon appétit.
Arnaud Daguin, à la bouche pleine, profitons-en. C'est son coup de la main.
France Inter. On va déguster.
Je vais vous parler d'un vice, d'un délit. D'un délice, une poussée printanière, cette attirance irrésistible vers les nourritures prépubères. Je vais vous parler de la pédophagie. Pédophagie, propension à consommer des plantes et pas mal d'animaux dans leur prime jeunesse, sans leur consentement. Combien de pois consommés tout petits, combien de choux dégustés dans leurs fleurs, combien d'agneaux immolés à la mamelle, combien de poissons frits encore tout bébés. Faut-il condamner la pédophagie? Doit-on écrouer les prédateurs des potagers? Les ogres des bergeries? Les dutroux des estuaires? Non. La jeunesse, c'est bon. C'est tendre, pleine de jus. Ah, l'innocent pigeonneau sur son lit de petits pois à peine nubile. Ah, l'agneau de lait, rôti avec de jeunes piments. Ah, les pibales, sautés avec un peu d'ail tout juste formé. Mais je m'égare. Bon, discernons déjà deux types de pédophagie, la végétale et l'animale. Ultérieurement, mon cher François Régis, nous nous pencherons sur l'animal. Aujourd'hui, la question est, doit-on fustiger la pédophagie végétale? Oui, récolter les végétaux en pleine croissance, c'est mal. Pourquoi? Parce que ça affame les sols. Vous connaissez le mantra de l'agriculture du vivant, nourrir les sols pour nourrir les hommes. Et comment nourrir les sols? En leur laissant récupérer une bonne part de ce qui pousse dessus. Car comme vous devriez le savoir maintenant, c'est la plante qui fait le sol et non le sol qui fait la plante. On peut résumer l'agriculture idéale comme la production d'une biomasse énorme, divisée en trois parts, qui remplissent trois missions. Une part qui alimente les hommes et leurs bêtes, une part pour nourrir le sol, et la troisième, dédiée à produire de l'énergie ou des biomatériaux. Quel rapport avec le petit pois, me direz-vous ? J'y viens. Quand on récolte la plante toute pitchounette, on ne remplit que la première de ces trois missions, nourrir les humains, et encore si peu. Et on néglige les deux autres. En s'adonnant à la pédophagie, on ne rend rien au sol. Le carbone que la plante a capturé dans l'air doit revenir au sol, au moins en partie. Grandir, mourir, pourrir, nourrir, tel est le cycle du vivant. En s'adonnant à la pédophagie, on ne produit aucune énergie, ni aucun matériau, ni huile, ni méthane, ni textile, ni isolant. Alors, que faire pour continuer à se régaler de légumes immatures sans épuiser les sols ? Compenser ? Voyez ce champ entièrement rasé, nu, affamé après la récolte précoce de ces petits pois. Eh bien, il lui faut au moins deux champs de tournesol ou de maïs géant, pas trop loin de lui, comme ça, il lui refile de quoi se nourrir pour rester fertile. Merci les voisins, vive le partage. Il faut nourrir chaque mètre carré agricole. Ainsi, nous laisserons aux générations futures des sols pleins de vie, soit le gîte et le couvert de la biodiversité qui fait la fertilité. Et nos gamins pourront continuer à coucher des pigeonneaux sur des lits de petits pois, à farcir éhontément les courgettes en fleurs et à tremper leurs jeunes carottes dans maintes sauces vierges. Mais pardon, je m'égare.
En tout cas, il y a des chefs qui font même encore plus fort, avant même le petit pois, et d'ailleurs on en a un exemple, il y a une toux verte juste en face de Xavier Mathias. On se contente pas du petit pois, on va même plus en amont vers la pousse de petits pois ou la fleur.
Alors, pousse et
qui
fleur.
Qui se déguste et qu'on retrouve dans les assiettes des grands chefs.
Voilà. Alors ça, c'est aussi, au Japon, ils le font assez régulièrement, hein, de travailler la pousse. Faut toujours, toujours tendre l'oreille quand on sait que c'est asiatique ou japonais, parce que eux ont vraiment une culture de végétal que nous n'avons pas.
Décrivez-nous cette pousse, ça fait des serpentins.
Des petites vrilles, hein, c'est par ce moyen-là qu'il va pouvoir s'accrocher sur des rames plus ou moins hautes en fonction des variétés. Et il y a un côté très frais, très vert à la pousse de pois,
bon,
qui est
temps,
vraiment super agréable. En fait, des pois, on en a trois. On a le pois cassé, le pois de casserie, le petit pois en grain, et le pois mange tout.
On l'a oublié, hein, celui-ci.
Voilà, qui est important aussi. Donc, mange tout, ça veut dire ou sans parchemin, hein, c'est la même chose. C'est que dans la gousse, il n'y a pas cette petite pellicule blanche dure.
Il n'y a pas de parchemin.
Il n'y a pas de parchemin, voilà. Donc, on peut le manger, en fait, entier.
Il porte
donc
bien son nom, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est pois sans parchemin ou mange tout. On mange toute la
ou
gousse.
Ou pois gourmand, je crois.
Ou pois gourmand, voilà. Donc, il y a un côté très vert, hein, dans le pois gourmand, très frais, mm-hmm, et qu'on peut retrouver aussi dans cette pousse qui est vraiment très agréable. Et au printemps, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de ce verre quand même.
Laura Portelli, est-ce que vous avez succombé à la mode, effectivement, de la pousse de petits pois, de la fleur de petits pois, car j'ai déjà goûté ça dans un potager, ça a un goût prodigieux de petits pois.
Alors oui, j'ai déjà fait ça, y compris avec des petits pois, pour mm-hmm aller jusqu'au bout du travail du petit pois, et aussi parce que je travaillais avec des Japonais.
Dans un instant, une autre recette de Laura Portelli. On va également évoquer une sacrée recette. J'ai fait une expérience absolument incroyable du côté de la Catalogne sud, la Catalogne espagnole. Tout ça, ça se passe juste après Sisyphus, Andrew Bird.
Stones throw from the precipice, pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.
forgets the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn and scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land.
On va déguster.
Un petit pois, deux petits pois, trois petits pois, quatre petits pois. Ça fait pas beaucoup pour faire un plat. Ah, heureusement, les voilà, mes petits pois. Une boîte de petits pois, ça fait un vrai repas. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Une boîte de petits pois, c'est un vrai repas. Je ne sais pas si vous étiez né, mais en tout cas, c'était la campagne de publicité pour les petits pois en conserve, 60, entre 64 et 67, diffusée à la télévision. Que faut-il penser, effectivement, de ce petit pois en conserve? Parce qu'on sait qu'au tournant du 19e siècle, la pertisation voit le jour et le petit pois en boîte apparaît. Et c'est vrai que ça a totalement changé notre rapport à ce légume vert. Ça l'a peut-être rendu plus populaire, mais il ne s'agit pas non plus du même légume. Là, on a affaire à une petite bille un peu ridée, de couleur kaki, très sucrée. Alors, il y en a qui aiment, etc. Mais que faut-il en penser?
Bah moi, j'en pense qu'il a quand même beaucoup perdu. Hein. C'est ce petit pois, entre un petit pois frais et un petit pois apertisé, il y a quand même peu de rapport. Après, on pourrait rentrer dans le détail de comment la moissonneuse-batteuse fait le tri, etc. Voilà, on n'a pas le temps, c'est pas forcément le lieu, mais c'est pas très gai, c'est pas très sympathique. Ce qui se passe au sein de l'industrie agroalimentaire, et ça explique par contre parfaitement la perte de qualité gustative. Hein. Oui. C'est-à-dire que petit ne signifie pas bon, hein, ne signifie pas immature, signifie en fait qu'on a sélectionné des variétés qui grossissent pas et qui sont pourtant peu sucrées, peu agréables, etc. Donc encore une fois, et vraiment je suis désolé d'insister là-dessus, mais les petits pois, c'est une saison assez brève. Ce sont des légumes qui n'aiment pas la chaleur. Ce sont des légumes très très contraignants pour les maraîchers, parce que pour ceux qui ont déjà récolté des petits pois, vous avez vu, ça tient sur la plante. Hein, attention, hein, c'est pas des haricots.
Donc récolte manuelle.
Ah ouais, récolte manuelle. Après, si on veut qu'ils soient bons, alors là, c'est à deux jours près, hein, parce qu'ils deviennent farineux très très vite. Ce qui signifie qu'il faut, pour avoir une vraie récolte, il faut aussi en cultiver une grande surface. Hein.
Donc beaucoup de contraintes.
Beaucoup de contraintes.
Ce qui explique le prix du petit pois et qui fait que le petit pois frais est un légume de luxe. Le dire,
bien hein. sûr, mais et qui, alors à mon sens, et je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais qui doit le rester parce que c'est un travail énorme, parce que c'est un travail en plus ça que les maraîchers font à un moment où on a d'autres choses à faire, hein, quand même des récoltes très longues, très fastidieuses en mai-juin. Je vous assure qu'on a du travail hein, dans les champs, et donc voilà, c'est une vraie contrainte qu'il faut accepter. Offrez-vous des petits pois, mais deux fois dans l'année, trois fois dans l'année, et faites-vous un vrai plaisir avec ça.
Des auditeurs nous précisent aussi qu'évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la conservation par congélation, et que le petit pois, qui contrairement d'ailleurs, c'est pas forcément une promotion de la congélation, mais c'est vrai que ça se comporte un peu mieux à la congélation que son cousin le haricot vert. Le petit pois garde un peu de texture. Il est en train de me faire la grimace, Arnaud Daguin. Je suis pas en train de défendre le petit pois congé.
Non, par contre, fais le bilan carbone de la congélation.
Évidemment. Par contre, une interrogation que partagent d'autres auditeurs, pourquoi le petit pois en boîte est bon marché, alors que le petit pois frais est un légume d'élite qui est assez cher? Est-ce à dire que le petit pois qui finit en boîte, il est récolté mécaniquement?
Bien sûr, oui, mais bien sûr, donc c'est à la moissonneuse-batteuse, c'est des variétés qu'on a sélectionnées. Alors, un petit pois, il fait pas des pois de façon régulière, automatique, où c'est mûr de bas en haut. Donc, ça mûrit progressivement. À un moment, faut passer la batteuse. Donc, ce qu'on veut, c'est du pois extra fin, du pois le plus petit possible. Donc, on a sélectionné des variétés qui restent petites, mais elles sont mûres, elles sont plus bonnes, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que on perd à ce point en qualité, parce qu'à un moment, on met la moissonneuse-batteuse dans le champ, il faut tout ramasser, et chose que nous, on ne fait jamais, jamais. On sélectionne gousse à gousse, quand même.
Xavier Mathias, est-ce qu'il existe des régions, historiquement et traditionnellement, dédiées à la culture de petits pois frais en France? On a dit qu'autour de Paris, effectivement, il y avait des bassins de culture très importants, ça a un petit peu, même beaucoup, disparu. Ailleurs, c'est le Val-de-Loire, c'est...
Voilà, bah, disons que bah, c'est ce que j'appelle les variétés du chemin de fer, en fait. C'est-à-dire que les franciliens font du petit pois, hop, développement du chemin de fer. Donc nous, en Touraine, on réussit à avoir 15 jours plus tôt, mais après, on se fait avoir par les gens du Sud qui nous remettent encore 15 jours devant, et puis maintenant, on arrive à des régions
au
Kenya. Sud de l'Europe. Voilà, bah, oui, exactement.
Et le petit pois roule les sabots un peu partout dans le monde. Vous nous parliez, Laura Portelli, de l'Italie. Vous êtes originaire de Toscane. Il y a d'ailleurs une recette de piselli à la Fiorentina, qui est très connue. En un mot, comment on fait les piselli à la Fiorentina?
Revenu dans du lard. Du lard. lard chauffé.
De Colonnata, j'imagine.
Bah oui, en l'occurrence, parce que c'est le lard toscan par excellence, qui est cher, donc on peut le remplacer par du lard fermier. On en a du très très bon français, fumé ou pas, avec ce bon goût rance, des bons lards. Et en Italie, on peut rajouter du romarin, de l'ail, et après faire saisir nos petits pois. Et ensuite, on en trouve aussi beaucoup dans le nord de l'Italie, parce que le nord de l'Italie, il est humide et il est tempéré. Et dans la même région, on trouve du riz, en fait, il y a des petits pois.
Ah, soit, ce qui explique d'ailleurs que les risottos aux petits pois...
Exactement, c'est l'alliance de deux choses qui poussent dans le même territoire.
Céréales légumineuses,
c'est ça.
Pas, on retrouve toujours cet équilibre-là. Hein.
Et à Venise, en ce moment, on déguste une célèbre spécialité qui est Risi e Bisi. C'est ce fameux risotto à l'onda, c'est-à-dire à la vénitienne. C'est un risotto assez fluide, avec le vialone nano, qui est cette toute petite variété de riz, et que l'on accommode avec les petits pois qui poussent sur les îles alentours.
Exactement.
Voilà. La vie est belle. Je vous propose de vous faire déguster, et là, il va pas être content Arnaud Daguin, parce que c'est carrément un infanticide. Une tradition catalane. J'étais à Barcelone il y a quelques jours en compagnie d'un expert vin que connaît Antoine Gerbel, Vincent Pousson.
Bien sûr. Solide et liquide, un blog, c'est un grand gourmet, c'est un grand graphiste, surtout, c'est un journaliste et il est passionné avec une certaine radicalité pour une cuisine méditerranéenne authentique.
C'est ça. Et il partage sa vie entre Barcelone et le Minervois. Il m'a emmené déjeuner chez Gresca, un bistrot gastronomique de Barcelone. En ce moment, attention, à Barcelone, ils sont en plein dans la saison d'un petit pois. Un petit pois quasi embryonnaire.
C'est les petits pois qui ont la forme d'une larme qu'on appelle la grimace. Donc petit pois boudin, on va aller en cuisine, on voit comment ça se passe.
Très simple, hein, très traditionnel. Hein. On fait de l'ail classé.
Ouais. Il prend le plat du couteau et pim, tu sais, il appuie dessus et tu exploses l'ail.
Et il écrase la gousse d'ail.
Alors, deux petits poireaux qu'on bassit sur les toutes fins.
Okay. Un millimètre d'épaisseur, tac, 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 tac.
Et on va faire huile d'olive.
Donc on fait revenir une gousse d'ail un peu écrasée dans un filet d'huile d'olive.
Regarde, donc là, qu'est-ce qu'on a? Les petits poireaux. Regarde, écoute le bruit, la musique. C'est du satie.
Fond de volaille.
On mouille.
On va mettre ça dedans. Ça, c'est de caltomache.
C'est du boudin?
C'est du boudin. Moitié boudin dedans.
Ça sent bon. La cannelle. La tradition de la cannelle dans le boudin.
Ok, alors c'est le moins pour les petits pois.
Les petits pois?
Tout cru.
En catalan, on fait comme ça.
Ah, qu'est-ce que vous avez fait là?
Tu cuisines avec les vapeurs dedans.
Il a pris une casserole à peine un peu plus petite que l'autre. Il a posé sur l'autre pour que la vapeur cuise le petit pois. Il va falloir trouver le bon moment. Parce qu'à Paris, c'est un truc vraiment qui m'agace. Puis c'est devenu une mode. On sert le légume pas cuit.
On remet le boudin, oui. La reste.
C'est-à-dire qu'on a pris la moitié du boudin qui a servi à faire le fond un peu, hein, cette espèce de liant, et on remet le boudin décoratif qu'on va manger tel quel, qui va juste prendre la chaleur.
Un peu de sel.
Petit filet d'huile d'olive.
De l'huile andalouse, monsieur.
C'est beau, c'est beau.
Ce petit coup d'huile en dehors du feu, hein, très important, hein,
ouais.
En dehors. Hein. Ça te crée une espèce de liaison. Comme si tu avais mis une crème, mais c'est juste une crème d'huile.
On va goûter. C'est bon.
C'est superbe.
Et où l'assiette?
Ça, c'est un plat traditionnel.
Alors?
Non, putain, c'est bon. Pardon, non, on dit pas putain à la radio. Mais en même temps, on a envie. Non, mais goûte. Hein, on a envie de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a le sucre de ce petit pois qui n'a pas de peau. Et avec ce boudin qui nous a fait le liant, et l'ail, évidemment, qui est l'accent, qui est l'âme, qui est l'esprit. C'est la cuisine.
Et même la très belle cuisine du chef Rafa Peña, qui nous a donc préparé ses lacrimas. Alors il s'agit, si j'ai pas été clair, du petit pois qui est sorti de sa gousse, de sa cosse, mais qui est avant un petit pois. C'est-à-dire qu'il est pas sphérique comme le petit pois, il est embryonnaire.
Il est à peine formé.
C'est ça, en forme de...
Et je vous conseille de...
Un embryon de petit pois, en forme de larme.
Si vous décidez de les manger dans cet état-là, il faut aussi, à côté ou avec, manger la cosse, vraiment.
Oui.
Parce que quand ils sont dans cet état-là, la cosse, elle est super tendre.
Les lacrimas à la butifarra, les larmes de petit pois au boudin, c'est vraiment un caviar vert extraordinaire à déguster. Au restaurant Gresca Carrer de Provenza, dans le quartier Eixample, qui est un des quartiers centrales de Barcelone. On évoquait justement la cosse. Est-ce que Laura Portelli, vous êtes familière de cette cosse? Est-ce que vous la cuisinez? L'enveloppe du petit pois?
Moi, ça m'est arrivé, mais il faut vraiment qu'il arrive extrêmement frais. Et le problème, c'est qu'il voyage souvent. Ah. Donc, on l'a pas tout de suite à la... quand il est cueilli.
Oui.
Donc, souvent, il est beaucoup plus vieux. La cosse, elle est même dure quand on la touche.
Elle est fibreuse.
Elle est
quand
fibreuse.
On a la chance de tomber sur un petit pois délicat avec une enveloppe relativement fine, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? De faire sauter l'écosse, de faire des tempura à la japonaise, des beignets.
Enfin, moi, je les aime à peine ébouillantés avec un trait d'huile d'olive crue dessus. Voilà.
Comme des pois gourmands, presque, en fait.
Voilà, c'est ça.
Très bien. On a fait une émission sur anti-gaspi, pas de déchets, etc.
Attendez.
Il est évident qu'on récupère les cosses, ou à ce moment-là, on les met au mieux dans le composteur.
T'en as même qui font du jus de cosse pour cuire les petits pois. Mais bon, moi, je trouve ça un peu compliqué, puis il faut avoir un truc pour faire du jus de cosse, etc. Et c'est vrai que quand on en a des bons, on n'a pas envie de le mixer et d'en faire du jus.
Arnaud?
J'ai une question pour Antoine. Le petit pois, est-ce qu'on boit du malt quand on l'écosse?
Oh, pas mal.
Hein.
Justement. Quel vin pour faire, copain? Avec le petit pois, la réponse avec Antoine Gerbel.
On va déguster. Sur France Inter.
Antoine Gerbel, ça sent le blanc.
Sacré Paris, François-Régis. Paris printanier, un vin à la Clamart, donc si j'ai bien suivi l'émission,
voilà.
Ou un prince au petit pois, mais c'est pas un comte d'Andersen dont je vais vous parler, mais plutôt un duc de Bourgogne. Alors, juste petite parenthèse, avec les petits pois, bien évidemment, un blanc sec, un blanc printanier. Derrière ce terme, on vous imaginez des arômes très légers, plutôt floraux, un petit peu fruités, mais quelque chose d'assez discret. Alors, on pourrait parler d'un petit chardonnay du nord de la Bourgogne, un sylvaner alsacien, un pinot blanc, pas trop mûr, mais je vais vous parler du prince Ali Gauthier. Le prince, parce que j'ai envie de le mettre sur un piédestal, ce cépage bourguignon complètement oublié. Alors, l'Ali Gauthier est à la base de l'ancêtre du Spritz. Quel est l'ancêtre du Spritz? C'est difficile à dire. Arnaud, François-Régis?
L'ancêtre du Spritz.
Le kir, voyons.
Bien sûr, la boisson du chanoine.
Cet apéritif qui était dans toutes les tables françaises. On ne débutait pas un repas après-guerre sans un kir.
Vous nous en rappelez la définition, Antoine?
Le chanoine, qui était donc un ecclésiaste élu de Dijon et qui prenait un petit vin blanc des pourtours de Dijon, qui était principalement de la ligotée, et il mélangeait avec de la crème de cassis. Mais comme souvent dans les mariages, on a un qui tire toujours un peu la couverture à lui, et c'est surtout le cassis qu'on a retenu dans le kir. Un blanc n'importe lequel est devenu un blanc cassis, et c'est le kir. Or, malheureusement, la ligotée, il était très répandu avant le phylloxéra en Bourgogne. On en trouvait autant que du chardonnay. Et puis, quand est arrivé le phylloxéra, quand il a fallu replanter après-guerre, on a préféré mettre du chardonnay qui était un petit peu plus noble, qui pouvait aussi produire pas mal, mais un peu moins que la ligotée, parce que la ligotée produit énormément. Et on a délaissé. Et puis, il y a des petites taches d'aligotée qui sont restées.
Des
poches de résistance dans certains coins où les vignerons, surtout, buvaient leur vin. Donc, ils avaient une envie de boire un vin frais. Et là, on revient sur quelque chose que je conteste avec Arnaud Naguin, c'est qu'il faut de la saisonnalité dans les vins. On ouvre le printemps, l'été arrive, et ben on laisse dans sa cave ces belles bouteilles qu'il faut garder, qu'il faut laisser aménager, vieillir. Le printemps est fait pour les primeurs, dans le vin aussi. Et ça me permet de réhabiliter aussi le gamay en Beaujolais, puisque le gamay primeur qui a été sali avec ce Beaujolais primeur du mois de novembre est un fantastique vin, le gamay de Pâques. Et la ligotée, c'est aussi le premier vin qui sortait de la cave. Alors la ligotée, je vous ai servi trois vins. Alors là, je suis ambitieux, je vous ai servi trois verres d'aligoté pour simplement vous raconter que ce cépage qu'on a décrié parce qu'il était un peu insipide, un peu acide, pas très intéressant, en fin de compte, aujourd'hui, il y a une bande de vignerons qui ont gardé leur vieux cépage sur des territoires adaptés et très différents. Donc là, vous avez une trilogie dans le verre. On commence avec un premier aligoté qui vient de la côte chalonnaise, petit territoire un peu oublié qui commence à sortir. La côte chalonnaise, Rully, Mercurey, c'est des crus qui commencent à parler. Et puis, on fait aussi beaucoup de Bourgogne. Le Bourgogne aligoté, c'est une tradition. Le premier vin qu'on vous sert, il est de 2017, oui. Jeune. Il s'appelle Enrato, ça veut dire que simplement, c'est une mention de terroir, donc il pourrait être un climat, comme on dit en Bourgogne. C'est simplement un domaine qui fait 5 hectares et demi, qui fait du Mercurey et qui fait son petit blanc. C'est très simple, c'est vinifié quand même en fût. Mm-hmm. Là aussi, il y a plein d'a priori, vous savez, sur la ligotée, ça vieillit pas. Moi, j'ai goûté des ligotées de 25 ans qui étaient merveilleux. Bon, ils étaient nés à morceaux, certes. La ligotée aussi, on dit qu'il n'y a pas de grand cru. Faux, avant, Corton Charlemagne avait de la ligotée à place du chardonnay. Et après, on dit aussi que la ligotée ne s'élève pas dans des beaux fûts bourguignons en chêne, mais plutôt en inox pour garder ce côté un peu printanier vert. Fou encore une fois, parce que quand il est bien né, on garde cette subtilité qu'on a dans cette aligotée. Alors, Le premier aligoté, pour moi, c'est l'expression fraîche, simple, on va dire un peu directe, un peu moderne aussi. Mm-hmm. C'est la maison Gouffier.
Oui.
Ça coûte entre 9 et 10 euros.
Et c'est bon.
Et c'est bon, et nos petits pois là, moi bon, j'aime bien les petits pois, peut-être un jus de veau peut-être.
Ah, ça y est, voilà, on est dans une émission végétale, voilà, nous casse la baraque.
Carnivore qui déborde, mais non, voilà. Bon. Ou à l'apéritif, et bien évidemment avec tous ces légumes verts, mais cuits, hein, parce qu'il y a aussi, là on parle de légumes, association vin et légumes, mais il faut penser quand même à la cuisson, parce que quand on parle de salade, choses comme ça, le rapport avec le vin est quand même beaucoup plus compliqué. Le deuxième aligoté.
Il a bien fait les choses, hein, numéro 2.
Numéro 2, vous avez vu sur un premier.
Mais drivé comme deuxième verre.
Toujours aligoté. Et j'ai alors là, on s'en va chez une vigneronne que j'apprécie particulièrement. Je crois que j'ai déjà évoqué ses vins. C'est Claire Naudan, c'est le domaine Naudan-Ferrand.
Vous êtes amoureux peut-être ? Non, pardon.
De ces vins, assurément. On est là sur un territoire historique d'Aligoté, ce qu'on appelle les hautes côtes de Beaune. Vous voyez, c'est la belle Côte d'Or. Et puis quand vous prenez les combes qui s'en vont de différents villages, là on quitte Gevrey ou Nuy et on monte sur les hautes côtes de Nuy. Et on est sur le village de Magny-les-Villers. Elle a la réputation d'être le berceau historique de l'Aligoté. Il en reste. Et elle en fait plusieurs, elle en fait trois. Même. Son premier vin, je trouve magnifique. Parce que à l'aveugle, là, les copains, si j'ai envie de leur dire, tiens, qu'est-ce que c'est ? On est plutôt à Chassagne, à Puligny ou à Meursault ? Et alors là, on peut discuter des heures, il n'y en a pas un qui me dira « On est dans les Hautes-Côtes et on boit de l'Aligoté ». C'est son 2015, ça coûte un tout petit peu plus cher, c'est entre 12 et 14 euros. Elle travaille en naturel, elle travaille en bio, c'est vendangé quand même à la machine parce qu'il faut quand même tirer un peu les prix. La machine permet aussi de faire des prix plutôt sages et ça se boit tout seul aussi. C'est un 2016, donc vous voyez un vin qui avance. Le dernier vin, les frères Chapuis, alors eux c'est les Flying Winemakers, ils achètent des raisins, mm-hmm. Ils ont travaillé chez des tout bons, chez les Pacalais notamment, et là c'est leur, moi j'aime beaucoup, alors là c'est sans soufre, donc il faut ouvrir la ligotée, et il faut lui mettre carrément en carafe, pendant une bonne heure, le secouer, et là vous allez encore avoir de la chair, ça s'exprime très très bien. Et alors ça me permet de faire un lien, puisque la ligotée des frères Chapuis, ils ont fait leur classe, un a fait ses classes, chez Philippe Pacalais. Philippe Pacalais est un grand monsieur des vins nature, qui a sorti lui aussi un aligoté effervescent, magnifique, qui arrive sur le marché en mai, ça s'appelle Bulle, ça coûte 22 euros, tout le prix des mauvais champagnes, mais c'est bien, bien meilleur. Et je termine ces chroniques sur un petit livre qui vient de sortir, ça s'appelle Plaidoyer pour le vin naturel,
ah,
qui
oui.
est signé Éric Morin, un avocat, un pénaliste qui s'est passionné, et surtout à côté de ses grands procès, il répare, il soigne, il défend les vignerons naturels qui ont des problèmes avec les institutions, surtout l'INAO.
Un boulot formidable.
On leur défend souvent de faire simplement du bon vin. Et il faut lire ce petit manuel, Plaidoyer pour le vin naturel, c'est Éric Morin. C'est chez Nourriture Fou, ça coûte 14 euros.
Merci beaucoup Antoine Gerbel. Hélène du Lot-et-Garonne nous écrit, je n'ai toujours pas de petits pois sur l'étal de mon marché alors qu'ils apparaissent habituellement fin mars. Que se passe-t-il ? Une réponse de notre pote du potager, Xavier.
Eh ben, on a une saison un petit peu compliquée quand même. Le petit pois, lui, ce qu'il aime, c'est quand c'est vraiment tempéré. Vous avez remarqué, on a des nuits très très froides. On a eu des nuits très froides et des journées très chaudes. Alors voilà, il aime pas ça, le petit pois. Il aime bien quand on a des printemps qui sont des printemps. Ben voilà, ça fait partie des évolutions climatiques qu'on subit. Mmh. Et là, celle-là, on la prend de plein fouet. Et on a eu une quinzaine de jours à peu près, hein, de retard.
Et on peut espérer, Xavier, manger du petit pois jusqu'à quand, si la saison redevient à peu près normale ?
Alors, jusqu'aux premières chaleurs, hein, ce qu'il aime pas quand il fait chaud, hein, quand même. Donc, moi, je trouve que jusqu'en juillet, on a des bons petits pois. Après, c'est un petit peu plus compliqué.
Et on conclut en dégustant, mais alors vraiment en deux petites phrases, on arrive au terme de cette émission. Il y a une recette très célèbre du répertoire français qui est le canard petit pois, et vous proposez d'inverser la donne, c'est petit pois canard. Ça va plaire à Arnaud Daguin.
Eh oui, j'avais fait ça avec le pigeon, figurez-vous.
Voilà, comment Arnaud, c'est astucieux, non ? Avec du magret fumé, comment vous faites, Laura ?
Saisi dans la graisse du magret fumé, en fait.
Là, vous partez des petits pois.
Exactement. Mm-hmm. Le magret fumé, je le retrouve grâce à mes amis de Pomarez de la Maison Paris,
oui.
qui me donnent un magret fumé label rouge. Je récupère le gras, je le coupe en julienne, je fais saisir mes petits pois dedans, je rajoute mes copeaux de carottes nouvelles et puis d'oignons, d'oignons nouveaux aussi. Je fais revenir, je rajoute un petit peu de thym et de fleurs de thym et ensuite je mets mes magrets fumés qui sont exceptionnels grâce à mes copains de la Maison Paris.
Mais c'est une idée géniale. Petit pois, canard, on mange plus de végétal que de protéines animales dans cette assiette.
Préparé très vite.
C'est prodigieux.
C'est la bonne proportion.
Et c'est le genre de plat que vous préparez justement dans votre boutique, Laura.
Bah oui, parce que j'adore préparer les légumes, j'aime aussi la viande, le poisson, etc. Mais j'aime bien mettre un peu au goût du jour avec un peu moins de graisse animale. Puis j'ai cet apport de l'Italie qui fait que j'ai tendance malheureusement à mettre de l'huile d'olive un peu partout.
Mais vous avez raison, Laura Portelli, vous nous rappelez l'adresse de votre garde-manger.
Alors c'est 8 rue Meissonnier, le garde-manger Wagram.
Merci beaucoup Laura. Xavier Mathias, merci beaucoup.
C'était avec plaisir.
On vous retrouve dans quelques semaines à ce micro, car vous venez de plus en plus régulièrement et on en est ravis pour évoquer un légume que vous connaissez bien.
Ah bah oui, l'artichaut.
L'artichaut sous toutes ses facettes. On va apprendre à tourner les artichauts également, à le cuisiner, mais surtout on va apprendre à voir comment il pousse avec notre ami Xavier. La semaine prochaine, une émission méditerranéenne. Ça va vous plaire, Laura Portelli. Ah oui. On vous fait partager le goût de Barcelone et on accueille la super cuisinière italienne Laura Zavan pour une compilation de ses meilleures recettes transalpines. Elvira Masson, Jérôme Gagnez seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci les amis, à la prochaine.
Merci
les petits pois.
À dimanche prochain si vous avez encore faim.
Et bonne Pâques.